Ce pain de vie que Dieu a donné aux hommes, c'est-à-dire Jésus, est dans Luc, au chapitre 1. C'est le cantique de Zacharie qui dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a procuré une pleine délivrance. » Et au verset 78, il dit « Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'un haut. » Donc, la venue de Jésus-Christ, qui est prophétisée ainsi par Zacharie, est qualifiée donc de la visite de Dieu aux hommes pour les sauver. Et cela est reconnu aussi par les habitants du village de Naïn, lorsque Jésus a ressuscité cette veuve. Et ils disent, l'Éternel a visité son peuple, en nous donnant ce prophète. Et ce grand prophète, et ils ne se trompaient pas, évidemment. Ils avaient tout à fait raison, et on n'avait jamais vu quelqu'un qui arrête un convoi mortuaire comme ça, et qui, d'une parole, en prenant la main du jeune homme décédé, on peut imaginer la stupeur et l'émerveillement à la fois des gens qui ont vu une telle scène. Hein. Et donc Dieu visite les hommes, et parce qu'il a visité les hommes, ben maintenant, nous, à notre tour, on va être entraînés dans les visites, on va dire. Et bon, on voit Moïse aussi qui, dans les Actes, il nous a dit qu'il lui vint au cœur à 40 ans de visiter ses frères. Et cette visite, quand on regarde un peu plus près, elle n'a pas été couronnée de succès parce que, vous savez là ce qui s'est passé, il a pris la défense d'un de ses compatriotes et il a tué à mort un Égyptien, frappé à mort, ce qui l'a obligé à partir, à fuir. Mais bon, le Seigneur était derrière cette erreur de jeunesse, on pourrait dire. Et puis, était-ce une erreur, puisqu'il a défendu son compatriote. Enfin, il a quand même donné la mort. Donc, c'était quand même une erreur. Mais à travers cette erreur, Dieu s'est servi donc de cela pour le conduire au pays de Madian où il va rencontrer sa femme, vous connaissez la suite de l'histoire, et 40 ans plus tard il reviendra libérer cette fois son peuple envoyé par l'Éternel et non pas envoyé par lui-même. La première fois c'était un peu lui qui était venu comme ça. Et dans Acte 15, enfin nous voyons aussi dans Matthieu 25 quand Jésus dit « J'étais malade et vous m'avez visité. » Et les disciples qui disent « Mais quand est-ce qu'on t'a vu malade ?» Il dit « Mais chaque fois que vous avez fait ça, les plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, en visitant les malades, eh bien, si nous visitons, nous visitons des frères, des sœurs de Jésus, et c'est à Christ finalement qu'on fait le bien que l'on fait à cette personne. Quel encouragement, c'est prodigieux si on réfléchit, c'est incalculable comme valeur. Dans Acte 15, on voit aussi ce mot « visiter » lorsque Paul dit à Barnabas « Retournons visiter les frères à qui nous avons annoncé la parole au commencement. » Retournons. Ce désir d'aller affermir, encourager. Et donc, finalement, quand on lit l'histoire, ils les ont visités jusqu'à un certain point au début, mais après, vous vous rappelez, ils voulaient avancer contre le nord et finalement, le Saint-Esprit les a empêchés. Ils sont partis à gauche de la carte, hein, c'est-à-dire contre l'ouest, contre la Grèce, puisque c'est le Seigneur qui les a fait partir du côté de l'Europe. Et tant mieux pour nous parce qu'on en a bénéficié. Donc cette visite des frères s'est transformée en visite missionnaire puisqu'ils ont annoncé l'évangile aux Grecs et à l'Europe. Maintenant ce texte de Jacques 1:27 qui est la définition la plus précise, on va regarder dans Jacques. On va lire peut-être 26 et 27 parce que ça forme un tout. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, La religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Donc là, j'y vois vraiment des précisions. On peut y voir des précisions sur ce qu'est le comment, le pourquoi de la visite. Tout d'abord, le mot religion apparaît très rarement dans la Bible. Je crois que c'est une des seules fois qu'il apparaît. Du latin religare, qui veut dire relier. Mais c'est un mot qui a plutôt une connotation, quand on parle de la religion, on voit les traditions humaines, on voit quelque chose de rigide, de figé. Et Jacques utilise quand même cette expression pour dire, vous voulez être religieux, vous voulez montrer que vous êtes relié au Seigneur, alors montrez-le par des actes, que ça se voit. Et si quelqu'un parle n'importe comment, alors il trompe son cœur, et cette religion, ben, elle est inutile, elle est vaine. Alors que celui qui dit qu'il est relié à Dieu, c'est-à-dire qu'il est uni et en communion avec Dieu, eh bien, il va mettre en pratique sa parole. Comment? Eh bien, en visitant les orphelins et les veuves. Donc, en allant à la rencontre de ces gens, d'une façon pure, c'est-à-dire séparée des souillures du monde. Si je suis contagieux ou trop contagieux, il vaut mieux pas que j'aille faire des visites. Si je suis souillé par les souillures de ce monde, qu'est-ce que je vais apporter en visitant quelqu'un? Donc la qualité de ma communion avec Dieu est importante aussi. Si je visite d'autres personnes, que je puisse le visiter d'une façon pure. Donc, dans Jacques 2, on voit un petit peu l'explication aussi comment interpréter ce passage. Dans Jacques 2, versets 17 à 19, Jacques dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et un petit peu plus loin, au verset 22, il dit, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi, donc la foi d'Abraham, fut rendue parfaite. » Donc, le fait de croire au Seigneur et de méditer sa parole, d'étudier, doit nous amener à une transformation, c'est ce que nous dit Jacques, et puis à une mise en action de cet amour de Dieu pour ceux qui souffrent, et en particulier, et bien là, on le voit, le qui, c'est les veuves et les orphelins, qui sont au cœur des préoccupations de Dieu. Si on pense à l'Ancien Testament, vous vous rappelez tous les textes où il est dit que l'Éternel soutient la veuve, où il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament qui en parlent. Donc Dieu est concerné en tout premier, par ces gens qui n'ont plus de soutien de famille, qui sont dans la précarité forcément, et puis qui n'ont plus de soutien moral aussi, ou de protection. Et donc, on peut les appeler les blessés de la vie aussi, des gens. Et ces gens-là, eh bien, ils ont besoin de visites et d'encouragement. La traduction exacte littérale qui a été bien traduite par Semeur et la Tobe, c'est dans la détresse. C'est des gens, littéralement, c'est dans la détresse ou leurs afflictions. La détresse, c'est quand même quelque chose de terrible. Quand on est dans la détresse, ça veut dire qu'on est complètement désemparé. On ne sait plus du tout quoi faire. Donc la détresse, c'est quelque chose de terriblement inconfortable et d'angoissant. Donc, une visite, vous rendez compte, d'un frère, d'une sœur aimant, quel bien ça peut apporter à ces personnes dans la détresse. Bon, il n'y a pas besoin d'attendre que les gens sont dans la détresse pour aller les visiter, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même ce que nous dit ce texte, que nous soyons sensibles aussi à ceux qui sont particulièrement éprouvés. Donc, pour résumer, les visites des hommes auprès de leurs semblables sont le reflet, enfin, nos visites devraient être le reflet de la visite de Dieu à nous, les humains. Et le but, donc, c'est de produire, comme Dieu, qu'a-t-il fait? Ben, il a libéré son peuple d'esclavage. Nous aussi, on est appelé à visiter pour annoncer le salut, la délivrance, la restauration, le renouvellement du Saint-Esprit, l'encouragement à lever la tête dans l'épreuve. Et dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, on peut lire ceci, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, on voit ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, où il est dit: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, vous voyez ce petit donc, ça nous relie avec le texte d'avant, puisque le Seigneur Jésus ne nous a pas destinés à la colère, mais il est mort pour nous, pour que nous puissions vivre ensemble avec lui. Alors il dit: exhortez-vous, c'est-à-dire encouragez-vous mutuellement, édifiez-vous, on peut aussi traduire consolez-vous l'un l'autre, édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Et la Semeur a traduit: aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Donc, si moi je grandis, en aidant mon frère ou ma soeur à grandir, je m'aide à grandir moi-même aussi, hein, forcément. On se grandit ensemble, on se fortifie ensemble. Donc c'est un beau passage, il y a encore le verset 14. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Je m'étais un pas plus loin, Arnaud nous avait déjà prêché un dimanche sur ce sujet, si vous vous rappelez. Maintenant, j'en viens à la diversité des visites. Donc, il y a diverses visites, il y a toute une panoplie de visites. Les malades, les personnes âgées, surtout, c'est la priorité, ceux qui sont empêchés de venir. Ça devrait être, enfin, personnellement, j'essaye de donner priorité. Quand je dois choisir, parce que souvent je dois choisir entre plusieurs visites, j'essaye de donner priorité à ceux qui ne peuvent pas venir au culte. Parce que ceux qui viennent au culte, ben, ils ont, entre guillemets, moins besoin parce qu'ils ont déjà eu une bouffée de bénédiction, d'oxygène spirituel. Le dimanche, qui nous donne des vitamines spirituelles pour affronter la semaine. Et quand on ne peut pas venir au culte, je pense que vous avez déjà remarqué ça, si on manque un dimanche, il manque quelque chose dans notre semaine. Et c'est trop important, le culte. Et donc, ceux qui ne peuvent pas venir, il faut leur donner une priorité. Et puis aussi, bien sûr, il y a les personnes âgées. Et ce contact tellement enrichissant des personnes âgées, Maurice Ray, dans son livre, il dit qu'il a tellement appris aussi au contact des personnes âgées. On a vraiment des choses à apprendre, d'écouter nos aînés. Ils ont plein de trucs. Et on peut aussi leur poser la question à nous, qui sommes plus jeunes, leur dire: mais comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez? Leur poser des questions. Et on a des choses à apprendre, ces frères et sœurs, qui ont marché pendant des années avec le Seigneur. Bon, il y a les souffrants, il y a les endeuillés, les isolés, bien entendu, comme on vient de les lire, les visites fraternelles, les visites d'évangélisation. Et parfois, certaines visites, il ne faut pas les cloisonner. Une visite d'édification ou d'encouragement peut se transformer en visite d'évangélisation. Quand j'étais à Saint-Chély la semaine dernière, j'ai visité une guillemets, doyenne de l'église de Saint-Chély, qui a du mal, qui vient plus au culte depuis un certain temps, qui a 89 ans. Et en visitant cette personne, eh bien, elle était avec sa fille, Et puis elle me dit, ben, j'ai ma sœur qui va venir. Et sa sœur, qui était encore plus âgée qu'elle, qui a 92 ans, est arrivée sur ces entrefaites. Et je me suis dit, puisque j'étais venu lui porter le calendrier biblique à cette sœur, je me suis dit, ben, je vais proposer un calendrier à sa sœur. Et j'étais surpris de la réaction de cette personne, parce qu'elle était presque gênée que j'offre le calendrier à sa sœur, parce qu'elle savait peut-être, entre guillemets, qu'elle n'était peut-être pas trop ouverte à notre calendrier, calendrier des protestants en pays catholique. Je vous fais la traduction pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Pays très catholique, là-bas, à la Lozère. Et donc, j'ai légèrement insisté, encouragé, et j'ai vu que cette dame de 92 ans était toute contente de prendre ce calendrier. Ah oui, je le veux bien, je suis contente. Était très contente. Et que la sœur de notre église, j'ai pensé après coup qu'on se fait des préjugés sur les membres de nos familles. Et peut-être que quand ça passe par le biais de quelqu'un d'autre, d'extérieur, moi je ne l'avais jamais rencontrée, cette dame. Je me suis dit, je la rencontre une fois, faut pas la rater. Il y a des gens qu'on rencontre qu'une fois. Il faut tendre une perche. Après, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Mais au moins, elle a tendu la perche. Et elle a saisi cette perche. Et bref, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais je lui ai dit, ben, peut-être que l'an prochain. Enfin, bref. Donc, c'est pour dire que des fois, une visite de consolation ou d'encouragement peut se transformer en visite d'évangélisation sans qu'on l'ait prévu. Il faut être toujours prêt un peu à pas rester pris dans un seul mode de faire. Ensuite, il y a la relation d'aide, il y a la discipline. Alors, je vais laisser Daniel peut-être continuer parce qu'il a fait un classement de niveau de visite qui est très intéressant et je vais peut-être laisser peut-être juste commenter ou il y a quatre niveaux de visite et je pense que j'ai classé ce que tu m'as envoyé là, en quatre niveaux. Hein, donc, tu vois, tu veux me rendre compte, c'est quand même.
C'est un petit peu le paragraphe suivant. C'était destiné à remplacer le paragraphe suivant, en fait. Mais c'est des visites aussi pour voir un petit peu dans leur niveau de difficulté, peut-être, auquel on peut être confronté, aussi à qui peut s'y attaquer. Parce qu'il y en a plusieurs parmi nous, peut-être, qui n'ont pas du tout d'expérience des visites et qui se disent oui, mais attendez, si je dois me lancer dans une visite de répréhension ou de discipline. Je ne me sens pas à l'aise. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Il y a ces premières visites que moi je qualifierais de liens, les visites de liens fraternels. Donc c'est la dimension consolation, exhortation, encouragement dont parlait Reynald tout à l'heure, qui correspond un peu à ce verset dans l'Épître aux Hébreux où il est dit de veiller les uns sur les autres, hein, de consoler les affligés, etc. Donc on en a parlé. Chacun, tout un chacun devrait être capable de faire ce genre de visite. Il y a la visite auprès des endeuillés qui est peut-être pas facile à aborder lorsqu'on n'a pas commencé. Mais moi, je me suis rendu compte souvent quand j'étais jeune ancien que ben, le Seigneur vient à notre secours, il nous inspire. Et souvent, on est démunis de mots, hein, dans ces visites-là qui nous font un peu peur. Mais c'est notre présence qui compte, c'est l'attention qu'on porte aux personnes. Et simplement d'être là et parfois de se taire, c'est suffisant, c'est déjà une visite et c'est un témoignage d'amour. Il n'y a pas besoin de développer beaucoup de choses, d'essayer par des versets, etc., de consoler, mais simplement d'avoir été là, c'est une visite qui marque notre fraternité. Un deuxième niveau bon, je saute le deuxième, qui est enseignement et témoignage, mais un deuxième niveau de visite, c'est le but, c'est la relation d'aide. C'est savoir que l'on va chez quelqu'un chez qui il y a des problèmes spirituels qui existent, ou des problèmes relationnels, des péchés, des choses comme ça, où le but va être d'amener cette personne à faire un pas de plus sur le plan spirituel. C'est une visite qui est déjà un petit peu plus délicate. Et qui nécessite peut-être une certaine expérience déjà du premier type de visite. Quand on veut commencer, je crois, commencer par ces premières visites, le premier type, c'est préférable. But de relation d'aide, il faut avoir peut-être une petite aptitude à ce qu'on va développer un tout petit peu après, au niveau de l'écoute, du conseil, être habité vraiment déjà par une certaine sagesse de la parole de Dieu, pour pouvoir aider ces personnes. C'est des problèmes conjugaux, par exemple, des problèmes familiaux, d'éducation des enfants, des problèmes de relations entre personnes, où souvent nous sommes appelés, c'est vrai que souvent, c'est déjà un peu les anciens qui sont appelés dans ces situations-là. Et puis le niveau suivant, c'est le niveau de répréhension, de discipline, où il s'agit d'aller reprendre quelqu'un par rapport à un péché avéré. Visite de discipline, c'est particulièrement délicat, c'est jamais très agréable, et c'est vrai que c'est beaucoup plus dans le rôle des anciens que de procéder à cela, même si dans Matthieu chapitre 18, il est dit que si un frère voit son frère en faute, qu'il aille lui en parler, le reprendre directement. Mais l'expérience montre que c'est pas toujours facile de procéder de cette façon. Et il faut peut-être un peu du courage, il faut du savoir-faire, mais qu'on peut acquérir aussi dans l'expérience des autres niveaux. C'est une espèce de progression pour ceux qui veulent commencer à faire des visites qui est exposée ici. Voilà, c'est rien de bien bien compliqué, hein.
Merci. Donc maintenant, j'aimerais qu'on aborde la question pratique, la pratique concrète quoi, de la visite. Donc, avant la visite, que faire? Eh bien, il faut se préparer. Ça se prépare. Seul ou avec qui, j'ai noté. Donc, on peut y aller seul, bien sûr, parce qu'on ne peut pas toujours avoir quelqu'un sous la main comme ça. Cet après-midi, par exemple, ou ce matin, j'ai téléphoné à Mme Vizini pour prendre de ses nouvelles, et puis j'ai senti qu'elle avait besoin, il fallait y aller sans trop tarder, et qu'elle m'a invité à venir, donc je suis parti seul. Mais quand on peut, et je l'ai fait avec quelques-uns d'entre vous déjà, et je le ferai encore, nous qui sommes plus âgés, on peut prendre un plus jeune avec nous, ou vous qui êtes plus jeune, vous allez avec un ami ou une amie du groupe de jeunes. Bref, d'aller avec une petite équipe, un petit groupe, parfois, c'est sympa aussi. Donc ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ont peur d'avoir du monde, il y a des gens qui sont ravis d'avoir plus une ou deux personnes. Ça dépend bien sûr le type de visite qu'on va faire. Donc avant de partir aussi, prier pour la personne et se dire, Seigneur, quelle parole je pourrais lui transmettre de ta part? Quelle parole? Et puis si le matin, dans ma lecture biblique, il y a un texte qui m'a fait du bien, ben, peut-être c'est ce texte-là, tout simplement, qui a réchauffé mon cœur, qui réchauffera le cœur de la personne à qui je vais le transmettre. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Hein. C'est Jean qui dit ça, hein. Un homme ne peut donner. Jean-Baptiste dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Donc il faut qu'on le reçoive du ciel pour redonner. Et puis, j'avais noté ça. Donc prévenir si possible avant par téléphone aussi. Les visites improvisées, ça peut arriver qu'on fasse une visite à l'improviste parce qu'on est dans le quartier, puis tout d'un coup, oh, ah oui, bah, peut-être que je pourrais faire un petit coucou à cette personne j'y avais pas pensé, ou peut-être tout d'un coup on a une heure qui se libère et on se dit, ben tiens, j'ai un moment là d'attente, peut-être que je peux encourager quelqu'un de l'église qui habite juste à côté. On peut le faire, mais c'est quelque chose de plutôt rare. C'est plutôt rare, mais il faut se laisser inspirer aussi. Hein? Il faut être souple. Mais malgré tout, c'est quand même bien, enfin, en ce qui me concerne. J'essaie d'avoir un programme et de faire un planning dans la semaine, dire ben, cette semaine, tac, 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 j'essaie de visiter. Bon, bien sûr que en ce qui me concerne, je suis à plein temps, j'ai une responsabilité et une liberté aussi que vous n'avez pas, parce que vous avez d'autres obligations professionnelles ou d'études. Mais donc, bref, de planifier un petit peu, c'est toujours bien, mais en même temps, il faut toujours être prêt de modifier le planning et de rester souple si le Seigneur nous met à cœur tout d'un coup une personne. Je ne sais pas si quelqu'un voulait dire quelque chose là-dessus, sinon je passe plus loin, parce que mes frères aussi, vous ou sœurs, si vous avez une pensée qui vous vient, vous pouvez rajouter hein, ou m'arrêter ou poser une question. Être ponctuel, j'ai mis aussi, ah ça c'est à la fin, Donc, se munir du numéro de téléphone, du code d'entrée, ça c'est à Grenoble, j'ai découvert ça en venant dans la grande ville. En Lozère, ça n'existait pas. Et j'ai découvert les codes. Alors, c'est vrai que des fois, c'est désagréable. Mince, j'ai oublié le code. On se retrouve en bas de l'immeuble. Et des fois, oups, juste au moment qu'il faut, il y a quelqu'un de l'immeuble qui vous ouvre la porte. Ça arrive des fois, ça fait du bien. Donc, prendre la Bible. La Bible, oui, vous comprenez pourquoi. Le papier stylo, pourquoi? Ben parce que, justement, on en parlera tout à l'heure avec l'écoute. Des fois, les gens disent quelque chose d'important et c'est utile de l'écrire, d'avoir un bout de papier et un crayon. Ça peut rendre d'énormes services. Et des fois, j'étais frustré de ne pas avoir un stylo sous la main ou un crayon. Parce que des fois, des trésors ou des choses qu'on rate de ne pas l'écrire. Et puis, le journal de l'Église, ben les jeunes qui ne peuvent pas venir au culte, ils ne l'ont pas. Le programme, en avoir un ou deux dans sa sacoche pour aller chez la personne, ou la liste de prières de l'Église. Quel plaisir ça leur fait à ces personnes aussi, là je parle des personnes âgées encore, d'avoir un lien avec l'Église par la prière et d'avoir des noms. Ils peuvent lire ces noms et prier pour ces personnes. Alors pendant la visite maintenant, il y a une question là-dessus ou un rajout avant qu'on passe au point suivant? Oui? Ben, ils sont sur le comptoir. Normalement, c'est Nathalie et Michel Bariol qui les distribuent tous les 2 mois. Et en général, il y en a trois ou quatre. C'est le journal de l'Église, ça fait programme et journal à la fois. Hein, ils sont normalement sur le comptoir de la librairie, normalement. Il en reste toujours 4 ou 5. En ce qui me concerne, j'en prends toujours un ou deux avec moi dans ma sacoche parce que je les donne justement à ceux qui n'ont pas pu les avoir. Ouais. Donc, demandez à Michel et Nathalie si jamais. Hein. Sinon, ben, on passe au deuxième. Pendant la visite, alors écoutez. Avant de trop parler, j'avais noté sur ma feuille, évite de faire des gaffes. Des fois, pouf, on part dans un truc. Et puis, ah, mais est-ce que tu as pris le temps d'écouter la personne? Alors, Daniel a écrit quelques règles de l'écoute. Et je pense que je te laisse. Alors, je les ai pas mis là-dessus. Alors, je les ai là, si tu veux, sur le papier. Ouais, je les ai marqués ici. Ouais, je les ai. Ah, tu les as là.
C'est pas grave. Juste quelques principes qui sont pas forcément bibliques, mais on y retrouve peut-être des valeurs bibliques aussi dedans. C'est plutôt un petit peu professionnel, ces conseils pour ceux qui ont fait des formations peut-être à l'écoute. C'est que l'écoute doit être vraiment centrée complètement sur la personne que l'on a en face de soi. Et dans un entretien qui vise à l'écoute de l'interlocuteur, du visité en l'occurrence, là, je crois qu'il faut vraiment s'abstenir de parler de soi-même. Il y a un certain nombre de principes, c'est dommage qu'ils ne soient pas écrits là, mais un premier principe, c'est l'attitude que l'on adopte. Dans la posture, simplement, si on est avachi sur une chaise, vraiment. Si on bâille, etc., vous imaginez bien que la personne ne se sent pas en confiance pour être écoutée. Si notre regard vagabonde sur la pièce pour vérifier un petit peu toute la déco. Mais le regard compte beaucoup dans l'écoute. Il communique beaucoup de notre intérêt pour la personne. C'est vraiment fixer la personne. Être assis d'une façon très attentive, pas du tout. Lassive, être plutôt sur le bord de sa chaise, vraiment attentionné. Pendant l'entretien, de manifester par des hochements de tête, par des petits murmures d'approbation, pour montrer qu'on est toujours là dans la discussion lorsque ça se prolonge. Une autre règle qui est importante, c'est de ne pas interrompre la personne. Donc, son attitude, ne pas interrompre la personne lorsqu'elle parle. Ne pas chercher tout de suite à poser un conseil ou une appréciation, un jugement, une évaluation de ce qui est dit, corriger éventuellement de ce qui est dit. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui casse l'écoute, mais ne pas chercher à interrompre. Dans l'écoute, c'est de chercher à comprendre les mots de la personne, ce qui n'est déjà pas toujours facile dans une église comme la nôtre qui est multiculturelle et multinationale, comprendre surtout les idées, et au-delà des idées, comprendre les intentions, et derrière les intentions, de comprendre les besoins, hein, de la personne que l'on écoute. Dans le cadre de l'écoute aussi, lorsque c'est nécessaire, c'est relancer le dialogue, enfin c'est pas vraiment le dialogue, mais la parole de la personne que l'on a en face de nous, par des questions qui sont des questions ouvertes toujours. Hein, ne pas simplement poser des questions auxquelles on répond par oui ou par non. Et un autre aspect qui est très important, moi j'ai beaucoup appris, bon, sur le plan professionnel, dans les formations qu'on peut nous faire sur ce sujet-là, c'est de reformuler et de résumer ce qui a été dit, pour essayer de renvoyer à la personne, voilà ce que j'ai compris de ce que vous vouliez me dire. C'est-à-dire, à un moment donné, on interrompt et me dit, voilà, si j'ai bien compris, c'est ceci que vous dites, que vous voulez dire, dans la reformulation, les choses qui ont voulu être dites, les choses qui sont ressenties, si j'ai bien compris, c'est comme ça que vous vivez la chose, c'est comme ça que vous le ressentez. Ces émotions-là qui ressortent de ce que vous me racontez, que vous m'exposez là maintenant. Donc de reformuler et de résumer. Voilà, au point où nous en sommes de notre discussion, voilà ce que j'ai compris, voilà où nous en sommes. Alors si on peut maintenant aller plus loin pour essayer d'avancer dans le dialogue. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein, cette reformulation, ça c'est quelque chose qui est très important dans ce qu'on appelle l'écoute active ou l'écoute bienveillante. En transposant dans un langage chrétien, on pourrait dire l'écoute aimante, hein, qui est vraiment centrée sur l'autre. Il y a un autre aspect, c'est de respecter les silences. Lorsqu'il y a des silences, ne pas vouloir à tout prix, tout de suite relancer et chercher à les briser. Il y a des silences qui sont des silences où manifestement la personne est un peu perdue dans le fil de ses pensées, ça c'est une chose, mais souvent des silences où on sent que c'est fructueux, que la personne réfléchit, il faut savoir les respecter. Un autre principe encore, c'est de ramener de la généralisation à la personnalisation. C'est-à-dire qu'une personne qui dit oui, en général, les chrétiens pensent ceci sur tel et tel sujet, dans une telle situation, les chrétiens font ceci. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Ou qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ce problème? Pas simplement se laisser aller aux généralités pour vraiment ramener constamment à la personne. Et puis, pendant l'entretien, c'est de relever les émotions qui accompagnent la parole de la personne. Des émotions de colère, des émotions de crainte, d'anxiété, d'angoisse, des pleurs, des choses comme ça. Et respecter que ces émotions se manifestent sans forcément soi-même manifester d'émotions trop, trop visibles. Hein, je crois qu'il faut rester dans une grande neutralité, hein, c'est ce qu'on appelle l'empathie, c'est de rester dans une certaine neutralité bienveillante vis-à-vis de la personne qui parle pour qu'elle ne ressente pas de notre part un jugement trop immédiat que l'on tire des conclusions trop rapides de ce qu'elle dit. Reynald parlait tout à l'heure de la prise de notes. Personnellement, moi, quand j'ai un entretien comme ceci, je demande toujours si la personne permet que je note quelque chose. Parce que de noter, ça peut aussi fermer un peu le dialogue, parce qu'on grave dans le marbre, en quelque sorte, ce qu'elle dit, et ça peut faire peur parfois. Mais est-ce que vous permettez de noter, et que c'est simplement pour que je retienne les idées importantes de ce que vous allez me dire. Et si vous voulez, je les détruirai ces notes. C'est pas du tout pour ensuite en faire un rapport au conseil d'anciens. Je crois que c'est important aussi de, quand on rentre dans des niveaux de visite, un petit peu le niveau 2 ou le niveau 3 qu'on a exposé tout à l'heure, on va rentrer dans des choses qui sont parfois intimes, et c'est important d'assurer la personne de la confidentialité. Et on a une règle un petit peu parmi les anciens dans nos entretiens. C'est vrai qu'on travaille beaucoup en collégialité, qu'on est censé partager un petit peu le fruit de nos visites, mais toujours avec l'accord de la personne. Est-ce que vous permettez que je le partage avec mes frères anciens pour que nous puissions prier pour vous, puis pour que d'autres peut-être puissent prendre le relais aussi dans ce problème qui est le vôtre, s'ils vous rendent visite, être au courant de ce que vous venez de dire. Donc de toujours respecter cette confidentialité et demander si on peut en parler ou non. Voilà un petit peu ces quelques points. Bon, éventuellement, on pourra les rajouter dans le PowerPoint. Je les avais passés hier soir à Reynald pour ça, mais ça n'a pas été intégré, si vous voulez. Mais ce n'est pas non plus des points d'une extrême technicité. Mais écouter, ce n'est pas évident. C'est quelque chose qui s'apprend un petit peu avec l'expérience et ça nécessite du temps et de la disponibilité, comme vous voyez. Si on est pris avec sa montre, pendant l'entretien, on est constamment là à regarder parce qu'il y a un prochain rendez-vous, c'est clair qu'on casse complètement l'entretien. Donc simplement, c'est quelques conseils dans l'écoute.
Merci pour ces précisions fort utiles. Donc, je continue, oui, veiller à la médisance, j'ai noté, dans Jacques 3, c'est la suite hein, de cet épître. On l'a étudié dans les groupes de quartier, donc vous vous rappelez. On a toujours le choix entre être pyromane, c'est-à-dire allumer un incendie, ou être un artisan de paix, donc un pompier pour éteindre le feu, allumé par la langue. Bon, je dirais que malgré tout, je suis heureux ou content de remarquer que lors de mes visites, j'ai pas souvent l'occasion, heureusement, d'entendre des plaintes, des critiques et des choses comme ça. C'est rare, c'est rare que cela arrive. Et ça, c'est encourageant. Et ça dénote aussi peut-être un bon, une bonne, comment dirais-je, atmosphère au sein de la communauté. Mais il peut arriver des fois qu'on tombe quand même chez des jeunes qui sont blessés, qui sont aigris et qui vous balancent d'un coup quelque chose que vous n'y attendez pas. Et des fois, ça fait mal, quoi. C'est lourd à entendre. Ça arrive, ça. Mais heureusement, Dieu merci. Je trouve que c'est très rare dans notre communauté, et tant mieux. Mais quand ça arrive, ben, faut savoir y faire face. Et puis, ben, c'est bien d'un côté que la personne s'exprime, qu'elle vide son sac, comme on dit. Puis après, ben, là, on entre un peu dans la relation d'aide, un peu. Hein. Comme on parlait tout à l'heure, c'était déjà le niveau 3. Il faut déjà un peu de savoir-faire et peut-être éventuellement demander de l'aide à quelqu'un, de dire, bon, ben, on en parlera avec quelqu'un d'autre. Et puis, on reparlera de ça plus tard. Poser des questions aussi, oser poser des questions donc aux gens. Il y a des gens qui parlent, il faut, je ne cite pas de nom, mais il y a des gens, vous entrez chez eux, vous n'avez pas besoin de choisir les sujets de conversation, vous les aurez tout de suite. Et il faudra des fois, peut-être même des fois, dire un peu faire violence pour dire quelque chose. Puis il y en a d'autres, il faut leur tirer un peu par les verres du nez, mais leur arracher des mots. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Hein. Et donc là, on peut poser des questions, s'intéresser à eux, santé, parce que souvent, quand même, la santé, ça reste un des domaines les plus personnels et importants. La famille, le travail, ben, la famille, on peut demander des nouvelles des enfants, par exemple, ou des petits-enfants, prier pour eux aussi. Et puis le travail, et puis par rapport au vécu dans l'Église, ça peut être intéressant aussi de poser la question à quelqu'un, eh bien, vous avez été content dimanche, ça s'est bien passé, s'ils sont venus. Et c'est l'occasion peut-être d'entendre dire oui, mais il y a eu ci ou ça qui ne m'a pas plu. Ça peut être l'occasion pour nous aussi de dire, bien, il y a peut-être quelque chose à corriger, ou il y a peut-être quelqu'un qui a dit une parole de trop et qui a blessé la personne. Bref, on est là pour rester à l'écoute aussi, lors des visites. Et voilà. Donc, en posant des questions, ça peut être bien. Exhorter, encourager. Regardez dans Hébreux 3, il y a ce texte où dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 12 à 14, il est dit « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous chaque jour. » Donc, ça sous-entend chaque jour qu'on se voit. Régulièrement en tout cas, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Donc, S'encourager, c'est une pratique, on va dire, quotidienne, qui devrait être une pratique régulière. On se rencontre, eh bien, j'encourage mon frère. Et ou s'il a un souci, ben, je l'écoute et puis peut-être que je peux prier avec lui. Et puis, j'ai mis aussi dans ma note, dans un esprit familial, dans 1 Timothée 5, Paul dit à son enfant spirituel, il lui donne des conseils justement pour comment faire avec les différentes personnes dans l'Église. Alors il le dit à Timothée qui était serviteur de Dieu, mais il le dit à chacun de nous, puisqu'on est tous au service du Seigneur, hein. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Donc, tu es en face d'un vieillard, tu te dis, il est comme ton père. Les jeunes hommes, comme des frères. Donc, il était jeune, Timothée, tu lui parles comme un frère. Les femmes âgées, comme des mères, avec respect, avec amour. Les jeunes, comme des sœurs, en toute pureté. Donc là aussi, ce n'est pas inutile d'avoir précisé, parce qu'on peut être troublé. Entre hommes et femmes, il y a souvent des rapports inspirés par une sorte de séduction et on doit être préservé aussi. Et même si on est au service du Seigneur, on a besoin d'être protégé. Donc il donne ses conseils, vous voyez, comme dans un esprit familial de pureté et de respect aussi. Dans l'église, quand on fait la visite. Voilà, je trouvais que ce texte se prêtait bien à ça. J'ai noté partager un sujet personnel. Je ne sais pas si je l'ai noté ici. On peut donner un. Daniel a dit très justement, on n'est pas là pour parler de nous, mais d'écouter l'autre. Mais les autres, parfois, sont contents d'avoir des nouvelles de nous aussi. Donc, on peut donner un sujet personnel d'encouragement, par exemple, si on était béni à telle ou telle, par telle ou telle chose, ça peut faire du bien à quelqu'un qui est en face et peut-être justement qui rame, qui a des difficultés. Mais alors, de le faire sobrement, c'est-à-dire pas de s'étaler. Donner des nouvelles de l'Église, donc si les jeunes sont empêchés de venir aux réunions. Moi, j'ai l'habitude de prendre des notes de toutes les prédications. Alors peut-être que si vous n'avez pas l'habitude, bon, ben, pas obligé, mais enfin, c'est quand même pratique, parce que non seulement pour soi, de fixer la pensée, mais aussi, quand la semaine, on va visiter quelqu'un qui n'a pas pu venir, on peut lui rappeler ce qui a été dit. Et enseigner dans l'Église. Et ça, d'avoir une trame sans forcément refaire les 30 ou 40 minutes de prédication, mais en faisant un résumé, en mettant l'accent sur une ou deux paroles, eh bien, ça peut faire du bien. Vous pensez que nous, les plus jeunes, on a tous une connexion Internet, mais toute la génération qui est au-dessus, la plupart n'ont donc rien et ils n'ont pas toutes les infos et les nouvelles que nous on a. On a une surabondance de nouvelles et eux ils n'ont pas. On peut leur demander donc un sujet de prière aussi. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez qu'on prie, qu'on apporte à Dieu? Et puis on prie pour ce fardeau ou ce sujet. Comme il est dit dans Galates 6, portez les fardeaux les uns les autres. Hein, dans Galates 6, il nous a dit ça. Et puis j'ai noté aussi chanter une strophe d'un cantique, par exemple, des petits chœurs ou qu'on connaît par cœur. Même si on n'a pas de carnet, on peut en chanter par cœur. J'espère que vous connaissez aussi des petits chants par cœur. Ça fait partie de l'édification personnelle. Ou prendre des carnets. On a des anciens carnets qui traînent au fond des tiroirs. On peut prendre un ancien carnet ou deux et l'ouvrir et plutôt qu'il fasse rien, et ben on les prend et on peut chanter. Un chant, un cantique. Et les personnages et surtout les anciens chants, ils aiment quand on chante avec eux. Hein. Donc j'ai mis la durée encore. J'ai mis de demi-heure à 1 heure, ça dépend beaucoup les personnes. Mais en général, il vaut mieux faire moins long que trop long. Après, les gens, ils peuvent être fatigués, dire ah ben c'était long. Donc, faut sentir, hein, c'est très variable d'une personne à l'autre. Alors après la visite, maintenant. Alors, notez la date de la personne visitée aussi, pour se rappeler par exemple qu'à tel jour j'ai été voir cette personne et essayer de ne pas oublier d'autres. Avec le texte du sujet, partagé par exemple, enfin le texte, le verset ou les textes bibliques. Et aussi, on peut noter une info importante que la personne nous a dite justement, à ne pas oublier de dire à quelqu'un d'autre, peut-être dans l'église. Ou une info importante sur une chose vécue par cette personne. On peut le noter chez nous. On peut mémoriser certaines choses et les écrire en rentrant à la maison, avant qu'on oublie, avant le lendemain. Et puis informer, j'ai noté l'équipe des visiteurs, c'est utile de se dire qui a visité qui. Et en arrivant avec Florence, on s'est partagé quelque chose. Mais c'est pratique parce qu'on sait qui fait quoi et qui a été chez qui. Et comme ça, on évite de faire des visites en doublant, alors qu'il y a des fois des gens qui tardent et qui languissent après une visite. Donc, il y a, avec les anciens aussi, on coordonne aussi les visites. Et c'est Stéphane qui tient une liste à jour. Et ça nous permet de ne pas oublier quelqu'un. Parce que des fois, on s'aperçoit, on partage qui a été visité qui. Alors, il y a quelques conseils de prudence qui ont été donnés aussi par Daniel, mais je les ai remis comme ça. Hein. J'y vais. Donc, ne pas surestimer ses compétences. Hein. Donc, on peut, face à des situations difficiles, on n'est pas toujours armé pour faire face. Ne pas hésiter de demander de l'aide éventuelle à d'autres qui, justement, sauront mieux gérer la chose. Et comme dit aussi, avoir du discernement face à des cas qui nous dépassent, des cas médicaux, de maladies psychiatriques en particulier. Je rajouterai aussi, ça peut arriver aussi, des problèmes liés à l'occultisme, ça existe aussi. Donc, faire la part des choses, et ça, ce n'est pas forcément facile. Et puis, respecter le secret de la confession, comme Daniel l'a dit tout à l'heure. En effet, s'il y a des choses, des gens qui nous disent ça, c'est entre nous, mais ça reste entre nous et ça n'ira pas plus loin. Il faut qu'on soit vraiment rigoureux pour que les gens gardent leur crédit de confiance. Parce que si après on était redire un truc intime ou qu'ils n'auraient pas voulu qu'on dise, eh bien on perd la crédibilité auprès de ces personnes. Donc, bien entendu, si la personne dit « je vous autorise à le dire à tel ou tel ou aux anciens », bien sûr, c'est pas pour ébruiter quelque chose ou un sujet douloureux ou délicat, mais c'est pour le porter dans la prière et pour y faire face. Voyez. Donc, il faut savoir... est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter, quelqu'un, ou une question?
J'ai juste une question pour le respect du secret de la confession. Dans quelle mesure, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui porte la conséquence, on va quand même garder le secret. Je n'ai pas d'exemple particulier qui me vient en tête, mais admettons qu'il y a vraiment quelque chose qui soit lourd, conséquent, qui ne gâche pas forcément que la personne, etc., et qui peut prêter des conséquences sur d'autres personnes. Comment est-ce que nous, on doit faire par rapport à ça? Et surtout, vous ne dites pas, mais...
Par exemple, un délit face à la loi,
Quand il y a un délit, en principe, on est tenu par la loi de... si c'est un délit grave, si j'ai bien compris ta question, ou si j'ai bien compris ce que j'ai entendu, c'est que s'il y avait vraiment un délit... le style un crime, quand c'est au niveau criminel, bien entendu, là je crois que ça peut pas. Ça c'est des cas extrêmes quand même. Moi j'ai jamais eu ça en tout cas, j'ai jamais vécu ça, mais je sais pas, Daniel, si toi tu as une.
C'est une question qui ne se pose pas encore trop en France, bien qu'il y ait déjà eu quelques cas un peu délicats portés devant les tribunaux de ce type-là. mais qui se pose beaucoup aux États-Unis, ce problème du secret de la confession. Les ecclésiastiques, mais bon, quand on fait une visite à titre personnel, on n'est pas un ecclésiastique en principe, mais ceux qui sont considérés comme ecclésiastiques, c'est-à-dire les pasteurs dans les églises, etc., sont tenus un petit peu au même titre que les médecins au secret professionnel. Et donc, même un crime, normalement, relève du secret professionnel, donc n'a pas à être divulgué, sauf effectivement donc l'inceste, ou alors je ne connais plus exactement les situations, mais c'est très marginal ce que l'on est censé dénoncer. Une église dans une ville en France, je ne vais pas aller plus loin, a eu cette situation où un frère qui était adjoint au pasteur a eu connaissance au cours de ses visites, de ses entretiens, d'inceste commis dans la famille. Et donc, ils ont été vraiment très embêtés de savoir s'ils géraient ça eux-mêmes, seuls, simplement sur un plan spirituel, c'était le père en l'occurrence. Et ils ont pris conseil et finalement ils l'ont dénoncé à la police. Cet homme est en prison. Donc voilà un petit peu. Bon, l'inceste, normalement, doit être. Et les cas des abus sur personnes en situation de faiblesse. Je ne sais pas, Yannès, pour toi, c'est peut-être plus récent encore tout ça, non? Tu es confronté à trop ça. Donc ça, on a l'obligation de le dénoncer, mais pas forcément les délits. Si quelqu'un a volé, par exemple, on n'a pas à le dénoncer. Par contre, bien entendu, on peut dire à la personne, écoutez, compte tenu de la gravité de ce que vous m'exposez, je crois qu'il faut absolument que je puisse en parler ou à l'intéresser, la victime, ou je vous encourage à vous-même faire les démarches nécessaires pour sortir de cette situation, qui de toute façon va aboutir à une impasse à un moment donné. Donc, mais on n'est pas censé divulguer lorsqu'une personne a livré quelque chose dans un cadre ecclésiastique. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres... Il n'y a pas eu trop de situations de ce type-là, mais aux États-Unis, il y a déjà eu de multiples procès vis-à-vis de pasteurs, par exemple, qui avaient, dans le cadre de ce qui est biblique, Matthieu chapitre 18, par exemple, quelqu'un qui a commis un péché, qui est un péché grave, qui déshonore vraiment le nom de Dieu, où on est dans cette démarche, un frère lui parle, deux lui parlent, et ensuite, dis-le à l'Église. Donc, de le dire à l'Église dans une démarche de discipline a été condamné par des tribunaux pour violation du secret de la confession. Et il y a eu plusieurs cas aux États-Unis, déjà de ce type-là. Donc, il faut toujours qu'on soit assez prudent à ce niveau-là. De la même façon, on en parlait tout récemment avec Reynald, lorsqu'une personne nous téléphone, par exemple, simplement pour savoir est-ce que telle personne vient à votre église, vous la connaissez, etc. Il ne faut pas répondre. Faut détourner la question, et on n'est pas censé dire à une famille, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, un membre de la famille par exemple qu'on ne connaît pas, qui n'est pas chrétien, que telle ou telle personne vient dans notre église. On a eu là récemment une question qui a été posée de cette façon. Donc j'étais présent dans l'entretien, je dis rien, tu dis rien. C'était pas en l'occurrence une famille, c'était quelqu'un qui cherchait quelqu'un. Bon, il n'était même pas de notre église, mais voilà, on ne doit pas dire ces choses-là. Il faut être vigilant vis-à-vis de ça. On ne sait pas trop quelle utilisation peut être faite de ça. Il y a une vigilance toute particulière, c'est dans les situations de conflits conjugaux. Parce que ce que l'on dit là, vraiment, peut ensuite être saisi, dit à l'avocat, qui va l'utiliser ensuite contre le conjoint. Et le conjoint peut se retourner contre nous pour violation du secret professionnel, si on a connu quelque chose. Par exemple, dans une situation de divorce, vous dites... oui, effectivement, je lui avais rendu visite, je l'avais trouvée dépressive. Si vous le dites au conjoint qui est en train de divorcer, c'est une violation du secret professionnel. L'avocat peut utiliser ça pour faire tourner le divorce au profit du conjoint qui n'est pas dépressif. Et l'autre peut vous attaquer pour avoir divulgué quelque chose de sa situation. Voilà, c'est particulièrement vrai pour les médecins, ça, on se méfie comme de la peste. Hein.
Donc ça, c'est des cas extrêmes, hein? On est d'accord. Heureusement que ce n'est pas trop courant, mais voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, une question Sinon, on passe plus loin, alors on passe au suivant, merci. Le choix des textes bibliques, donc si vous voulez noter, si vous avez Je les ai mis donc. Il y a toutes sortes de personnes en face de nous. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont suggéré de mettre. Alors, j'ai mis qu'un choix très modeste. Il y a plein d'autres textes, bien entendu, que ceux-ci. Hein. Moi, j'ai mis ceux qui me sont venus comme ça sur le moment. Pardon? Oui, ben, bien sûr, c'est possible. On peut. Moi, j'ai pas de copyright. Hein, on n'a pas. On peut. Tu veux dire ça ou tu veux dire tout? Parce que. Le PowerPoint. Oui, le PowerPoint. Ouais.
On peut le mettre sur le site.
Oui, bien sûr, bien entendu. Et même mon PowerPoint, il n'a pas la prétention d'être complet. Enfin, je me rends compte qu'il y a encore plein de choses que. Mais voilà, ben oui, on peut le mettre sur le site, il n'y a pas de souci, bien sûr. Oui. Donc vous l'aurez alors sur le site, comme ça. Donc il y a quand même des textes bibliques qui sont incontournables, n'est-ce pas? Enfin, des textes où il y a des chapitres entiers de la Bible, comme Luc 15, où il y a les trois paraboles, de la brebis perdue, la pièce perdue et le fils perdu, hein. Ben pour l'évangélisation, c'est excellent, quoi, c'est du costaud. Les blessés de la vie, Ésaïe 57 aussi, il y a un texte magnifique aussi à lire. Quelqu'un qui est. Donc tous les textes que je vous ai mis, c'est des textes clés. Après, vous avez encore plein d'autres textes autres que ceux-ci, hein, bien entendu. Et face à la mort aussi, psaume 16, psaume 23, Jean 14, tout ça, c'est des. C'est des incontournables, hein, Thessaloniciens 4 et le premier chapitre de l'Apocalypse. Donc vous voyez, ça c'est utile de les avoir sous la main, on va dire, et au moment où on doit parler avec quelqu'un, ben, oh, oui, je me rappelle, ça se trouve là. Donc préparez votre Bible ou votre Nouveau Testament et vous soulignez au feutre ou vous rappelez que ça c'est des chapitres essentiels.
Quelqu'un n'a pas dans sa Bible une petite brochure il y avait une sélection.
Toute la liste, ouais.
Pour ceci, telle situation.
Ben, si, d'ailleurs, si quelqu'un sait comment se procurer ce document, moi, ça m'intéresse. Je l'ai eu étant jeune. La quoi, là ?
Je ne sais pas si c'est encore édité.
Il y avait la Ligue du Testament de poche.
C'est ça.
C'était la Ligue du Testament de poche. Il faudrait demander à Alain Pierre aussi. Il doit peut-être avoir ça.
Et dans certaines éditions de la Bible, il y a à la fin
oui.
Aussi des sélections de textes pour telle et telle situation.
Je crois que les Bibles de la Maison de la Bible, ils l'ont. Ah, puis je voulais dire aussi une chose à laquelle j'ai pensé aussi. Je ne l'ai pas noté sur mon PowerPoint, mais vous pourrez l'intégrer. C'est que des fois, un coup de téléphone, quand on n'a pas le temps matériellement, mais qu'on a un fardeau sur le cœur, de dire, il faudrait que je visite cette personne, mais je ne vais pas y arriver. Tout d'un coup, la journée, il y a eu des imprévus, vous n'y arrivez pas. Eh bien, un coup de téléphone ne remplace bien sûr pas une visite, mais je dirais que c'est une demi ou un trois quarts de visite. Et il y a des gens, un simple coup de téléphone, je peux vous dire, quel bien ça peut faire. Il n'y a pas besoin d'être long, mais juste de prendre des nouvelles et d'écouter la personne un moment parce qu'elle va. Enfin, là, je pense à une personne âgée de notre église aussi. Un simple coup de téléphone lui fait un bien énorme. Elle me remercie 5 fois de lui avoir téléphoné pour dire à quel point le coup de fil peut faire plaisir, alors que cette personne ne souhaite pas forcément une visite, parce que pour elle, une visite, c'est une montagne, parce qu'elle est fatiguée, et puis parce qu'elle dit « Ah, je n'ai pas mis mes habits, je ne peux pas vous recevoir comme ça. » Eh bien, simplement... Là, je parle d'une personne très âgée. Donc, le fait de téléphoner à cette personne, de prendre de ses nouvelles, ben, le bonheur que ça peut lui faire. Là, je parle d'une personne isolée et âgée, qui n'a pas de chrétien dans sa famille. Voilà, donc je conclue maintenant, à moins que vous lui posiez encore une question, puis je donne une petite conclusion. Ou rajouter quelque chose, une expérience. Donc on conclut. Et tu peux mettre la conclusion, voilà. Donc, imitons Dieu, j'ai noté dans nos visites. Dieu est venu visiter et sauver les hommes en Christ. Et le Seigneur Jésus a quitté le confort du ciel pour nous sauver, hein, et nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Finalement, la visite, c'est une question d'amour. Et Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, hein, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est ça le commandement nouveau, comme il nous a aimés. Ça veut dire que pour nous aimer, il a tout laissé, tout donné. Alors nous, il nous appelle aussi à nous aimer de cette qualité d'amour qui se sacrifie, qui se donne. Et c'est vrai qu'il faut sacrifier une part de nos loisirs, de notre temps, pour aller visiter telle ou telle personne. Mais finalement, c'est un petit sacrifice quand on voit le bonheur, le grand bonheur que ça donne à la personne qui reçoit la visite. Hein. Et donc, c'est une façon concrète donc, de nous aimer les uns les autres. Et pour terminer aussi, rappeler que ce n'est pas le travail d'une seule personne dans l'Église ou même du seul groupe des anciens, mais bon, on est déjà une petite équipe intergénérationnelle, on va dire, ou qui faisons spontanément des visites, et ça c'est vraiment super. Et puis avec le groupe de jeunes aussi, vous y allez, c'est réjouissant aussi, ça fait pas mal de temps, je crois que vous le faites dans le groupe de jeunes, et vous continuez, vous avez raison, c'est super. Et donc tout ça c'est des bouffées de bonheur que vous transmettez, que nous transmettons à d'autres. Et si, d'autres, et si personne n'a jamais fait de visite et qu'il aimerait en faire avec moi ou l'un ou l'autre des responsables de l'Église, n'hésitez pas de nous contacter. C'est volontiers qu'on on vous amènera à faire des visites parce qu'il y a de quoi faire. Voilà.